France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Gwendoline Troyano et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux guérillas face au processus de paix. Nous avons parlé du PKK, dont le chef Öcalan appelle à la dissolution, de la réinsertion des FARC en Colombie ou encore plus généralement des méthodes de l'ONU pour le désarmement et de leurs limites. Aujourd'hui, l'Irlande du Nord, 27 ans après les accords de paix, de l'IRA au Sinn Féin, la reconversion politique, c'est le sujet de Culture Monde ce matin.
Quand j'avais 16 ans, mon frère m'a emmené à Derry le jour du Bloody Sunday. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Les coups de feu que j'ai entendus, tous ces cadavres jonchant le sol, les blessés et aussi les 14 personnes tuées par les parachutistes britanniques. J'ai commencé à changer de vision sur mon pays.
Est-ce que je regrette cette période de ma vie passée dans l'IRA? Absolument pas. Je pense que j'ai contribué à un changement sociétal majeur. C'était une guerre anticoloniale, donc non, aucun regret. Enfin si, je regrette d'être allé en prison. Je regrette les victimes, les blessés, toutes ces choses.
Je ne veux surtout pas que la nouvelle génération soit condamnée à connaître le même destin que moi. Je ne veux pas que la jeunesse soit confrontée à la guerre. Le contexte d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui que j'ai connu lorsque j'étais adolescent. Et je pense qu'il faut désormais nous donner les moyens de trouver une issue politique.
Ce n'est qu'en 2005, 7 ans après les accords de paix, que l'armée républicaine irlandaise a appelé tous ses membres à déposer les armes. Pas de les rendre, comme écrivaient alors les journaux. À qui l'IRA pouvait-elle rendre les armes? Elle n'était ni vaincue ni exsangue. Il n'était pas question de reddition militaire, mais de courage politique, écrit Sir Chalandon dans son roman Mon traître. Le traître en question, ici appelé Tyrone Meehan, combattant républicain devenu espion pour les services britanniques, pour lequel Sir Chalandon a ces mots. Quel serait aujourd'hui le regard de Tyrone Meehan s'il vivait encore? Est-ce qu'on perd son éclat après avoir trahi? Est-ce que les yeux sont plus sombres, différents? Sont-ils recouverts par un voile, une crêpe de soie terne? Reconnaît-on un traître à son regard? 20 ans plus tard, la mémoire de la guerre se lit très certainement dans l'iris de ceux qui l'ont vécu. Elle se voit surtout dans les villes, sur les murs qui séparent encore les quartiers catholiques et protestants, sur les fresques qui rappellent à chaque coin de rue les massacres passés. Devenus vétérans, les anciens combattants de chaque camp vivent avec cette mémoire du conflit. Côté républicain, ils ont pour beaucoup rejoint les rangs du Sinn Féin, autrefois aile politique de l'IRA, devenue la première force politique d'Irlande du Nord depuis les dernières législatives. Alors comment vivent ces anciens combattants depuis la dissolution de l'IRA? Que font les plus jeunes également de cet héritage? Ce sont les questions que nous allons vous poser pendant toute cette heure avec vous, Adrien Holstein. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Vous travaillez en particulier sur la reconversion des anciens combattants, des vétérans de l'IRA. Bonjour Agnès Maillot.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, vous êtes professeure à la Dublin City University. Vous êtes l'autrice du livre « L'IRA et le conflit nord-irlandais » paru aux éditions des presses universitaires de Caen. Vous êtes à Dublin, où j'ouvre d'ailleurs une petite fenêtre sur la ville en précisant qu'il y est 10h04 actuellement et qu'il y fait très très beau, comme ici à Paris. Est-ce que cette année, en 2025, Agnès Maillot, ont été commémorés à Dublin, comme dans toute l'Irlande du Nord, les 20 ans de la dissolution de l'IRA, comme l'avait été en 2023 les 25 ans des accords de paix?
Alors, parce que c'est pas une date qui peut être commémorée dans le sens où c'est pas une date très glorieuse dans l'histoire de l'IRA, puisque c'est la fin des combats, c'est la fin d'une armée clandestine qui existe depuis pratiquement 100 ans, mais c'est l'aboutissement d'un processus de paix et en particulier d'un processus de désarmement qui va durer 7 ans. Donc l'IRA continue d'une manière ou d'une autre à être commémoré par les républicains, notamment quand il y a un volontairement. Par exemple, il y en a eu un récemment d'un ancien prisonnier politique qui avait une certaine renommée dans les cercles républicains. Donc là, il y a des commémorations. On commémore 1916, qui est le soulèvement qui a lancé la révolution irlandaise et le processus d'indépendance à l'époque. On commémore certaines dates clés. En revanche, je ne suis pas du tout certaine qu'il y aura une commémoration à la date même où l'IRA a annoncé non seulement le dépôt des armes, mais la fin de sa guerre. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'elle a non seulement rendu les armes, mais elle les a rendues. Il y avait un processus de désarmement qui avait été mis en place avec une commission qui était chargée de contrôler l'arsenal de tous les paramilitaires et de s'assurer que toutes les armes étaient bel et bien rendues et détruites. Donc, il y a eu un vrai processus pour mettre fin au désarmement. Et en même temps, c'est un processus dans lequel l'IRA s'est engagée de façon contrainte, mais pas forcément toujours très enthousiaste.
Alors, un désarmement que l'on dit aujourd'hui réussi et qui contraste aussi avec des processus de désarmement dont on a pu parler dans les précédentes émissions de cette série sur les guérillas qui appellent à désarmer ou qui ont déjà désarmé. Alors, c'est un sujet que vous connaissez bien, Adrien Holstein, et notamment ce qu'on appelle aussi les groupes dissidents aujourd'hui. On prendra le temps d'en parler. Il y a quand même encore des armes en circulation et des groupes se réclamant de l'IRA, qui en font usage aujourd'hui encore de façon beaucoup plus sporadique. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Néanmoins, comme vous travaillez en particulier sur la reconversion d'anciens combattants, que prévoyaient les accords du Vendredi Saint à l'origine pour l'avenir, pour la réintégration de ceux qui se présentaient pour déposer les armes? Est-ce que à l'époque déjà on disait on va travailler ensemble pour voir ce que vous pouvez faire après la lutte?
Bonjour. Alors, en vérité, juste pour parler d'abord un peu des négociations, les Républicains, donc le Sinn Féin qui est dans les négociations, ont un rôle assez limité. Sous certains aspects, ça se limite à juste la libération des prisonniers. Alors, ils ne sont pas les seuls, parce qu'il y a les loyalistes aussi, les prisonniers paramilitaires loyalistes qui vont être libérés. Mais voilà, c'est à peu près le seul rôle, si j'exagère un peu, qu'ils ont au moment des négociations. Donc, ce qui est prévu, c'est d'abord la libération sans condition des prisonniers. Alors, sans condition, à condition que, un, ils soutiennent l'accord de paix, et deux, qu'ils ne récidivent pas.
Il y a 450 prisonniers au moment de la signature des accords, 235 républicains, 216 loyalistes. Voilà. Ils ne sont plus très nombreux, entre guillemets, dans les prisons.
Donc, à ce moment-là, vous avez les prisonniers de l'IRA et les prisonniers de l'INLA, qui est un autre groupe, l'armée de libération nationale irlandaise, qui est d'obédience marxiste-léniniste. Voilà, c'est les prisonniers de ces deux groupes-là qui sortent. Et après, ce qui est prévu, vous avez essentiellement, c'est la possibilité de participer à la compétition électorale, politique, au sens large, puisque pendant des années, pendant tout le conflit d'ailleurs, les Républicains, le Sinn Féin, étaient interdits d'antenne, interdits de, sous certains aspects, de participer justement à cette compétition-là. Ils n'étaient pas intégrés dans les négociations, ils n'étaient pas intégrés dans les discussions. Donc ça, c'est le point essentiel, si vous voulez, avec une réforme des institutions qui... on a un système notamment dans l'Assemblée nord-irlandaise qui est mise en place à cette époque, qui est un système de vote un peu bizarre, puisqu'il faut à la fois la majorité de l'ensemble des députés et la majorité des députés au sein de chaque communauté. Donc voilà, chaque parti s'affilie, enfin se désigne catholique ou protestant, voilà, il faut une majorité de chaque camp.
Alors pour bien parler de réancrer tout ça dans le contexte actuel et essayer de remettre tout ça en perspective, mais vu depuis 2025, c'est dans les accords de paix de Dublin, on entend du Vendredi Saint, on entend bien Adrien Holstein que n'est pas prévu de contribuer à des programmes de désarmement, démobilisation, réintégration, comme ceux dont on a parlé hier avec Nathalie Duclos, qui était d'ailleurs votre directrice de thèse, et qui se mettait en place, et qui l'est toujours, oui, vous êtes en train de l'écrire, qui se mettait en place à l'époque, presque en même temps d'ailleurs, au Kosovo. Cette question-là n'est pas abordée en Irlande du Nord.
Non, on aborde effectivement la question de la démilitarisation, enfin du désarmement plutôt que la démilitarisation. Et c'est une question qui va revenir inlassablement, c'est-à-dire qu'elle arrive au moment des négociations, puisque notamment une partie des unionistes, politiciens unionistes, vont poser le désarmement de l'IRA comme un prérequis à l'ouverture des négociations, ou plutôt à l'insertion, à l'intégration du Sinn Féin dans les négociations. Bon, pour plein de raisons, ça se fait pas, parce qu'il y a aussi une partie de la base militaire, policière, qui fait comprendre que ce n'est pas raisonnable d'appeler les républicains à se désarmer pour pouvoir négocier. C'est une question qui se repose au moment de l'accord de paix. Et une fois que l'accord de paix est signé, bah c'est une question qui se repose à nouveau parce qu'elle n'est toujours pas réglée. Et comme vous l'avez rappelé, l'accord de paix, c'est 98 et le désarmement complet avec la cessation des activités militaires, c'est 2005. Donc il y a quand même 7 ans d'écart. Pendant lesquels, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'IRA est sous pression, en réalité. Sous pression de plusieurs points. En fait, si vous voulez, elle prend des coups un peu de tout le monde. Il y a les unionistes qui lui demandent de désarmer, avec évidemment les gouvernements irlandais, britanniques. Elle est sous pression de sa base, qui a peut-être envie de continuer la lutte armée. Donc, il faut l'accepter. Enfin, il faut l'accepter. Il faut justement arriver à les retenir. Elle est sous pression des dissidents, je sais qu'on va en reparler, mais qui, eux, veulent continuer et qu'on va pas laisser continuer. Et enfin, vous avez une série d'événements, d'affrontements, entre loyalistes et républicains qui peuvent dégénérer en conflit armé. Et du coup, il y a quand même cette idée d'on va garder les armes au cas où. On ne va pas se désarmer tout de suite parce que au début du confinement irlandais, quand il y a eu ces affrontements communautaires, on n'était pas apte à se défendre.
Et puis on est, Agnès Maillot, aussi dans le cadre d'une guérilla qui, pour le coup, est très politique. Ce n'est pas le cas de toutes, mais là, on a un enjeu politique majeur dans cette guerre que se mènent les républicains catholiques face aux protestants unionistes. Pour le dire très vite, c'est que il est inenvisageable pour les combattants de l'IRA de rejoindre quelque armée britannique que ce soit ou des forces de sécurité britanniques.
Alors, évidemment, il n'en a jamais été question. Et pour revenir un petit peu sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la prise en charge par le gouvernement ou par les autorités des anciens prisonniers, en fait, très très vite, s'est installé au sein même des organisations paramilitaires et en particulier de l'IRA, un système de soutien aux prisonniers et aux anciens prisonniers. Donc, en fait, c'est un petit peu cet encadrement, cette réinsertion se fait un petit peu de façon interne. Il ne faut pas oublier que les prisonniers républicains, les anciens de l'IRA, ont encore énormément de méfiance à l'égard des institutions, même si elles sont nouvelles et même si elles ont été refaçonnées grâce aux accords de 98. Ils sont méfiants et ils ne vont pas, on ne leur propose pas de programme de réinsertion en tant que tel. Et eux-mêmes, de toute manière, auraient peut-être eu une certaine hésitation à prendre part à ce type de programme. Ce qui va poser un problème parce que même si au moment où ils sont libérés de façon anticipée, donc il ne faut pas non plus minimiser ce qu'obtiennent les républicains et les loyalistes dans les négociations de 98, ils obtiennent la libération anticipée de tous les prisonniers, quelles que soient les peines qu'ils sont en train de purger.
Avec
et donc au moment où ils sont libérés, c'est une amnistie pour tous ceux, effectivement, qui observent le cessez-le-feu de leur organisation. Donc, quand ils sont libérés, ils sont effectivement 450, mais sur toute la période du conflit, on parle de plus de 10 000 prisonniers. Donc, c'est un chiffre énorme et ce n'est pas la préoccupation centrale des accords de 98. Une des préoccupations majeures, une fois que les prisonniers ont été libérés, c'est le désarmement, c'est d'obtenir ce désarmement. Donc, les prisonniers sont pris en charge par leur communauté, par des organisations locales, par des associations, par leurs partis politiques, mais en fait, pas nécessairement par les institutions ou par les autorités elles-mêmes.
La première chose qu'on te disait lorsque tu rejoignais l'IRA, c'est que deux options se présentaient à toi dans la vie, la mort ou la prison. Moi, j'ai été chanceux. Beaucoup de mes camarades ont perdu la vie avant leurs 17 ou 18 ans. Ça n'a pas empêché toute ma génération d'avoir un seul rêve, s'engager dans l'IRA.
Un ancien combattant de l'IRA, interrogé en 2023 par Real Stories au moment de la commémoration de l'anniversaire des accords du Vendredi Saint. Alors que sont-ils devenus, Adrien Holstein, la plupart de ces vétérans, pour qui la lutte armée était à l'époque, comme dit ce monsieur, un horizon que eux pensaient indépassable. Ils n'avaient pas d'autre horizon que celui-ci.
Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vaste question. Il y a une partie, effectivement, comme on l'a dit, donc qui rentre dans le Sinn Féin, qui va devenir élu. Ils vont se faire élire au conseil municipal, ils vont se faire élire à l'Assemblée d'Irlande du Nord, au Parlement européen, etc., etc. Et puis, il y a, j'ai envie de dire, de manière très large, tout le reste. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont rentrer dans les associations, dont ça peut être le métier, d'ailleurs. Les associations d'anciens prisonniers vont offrir, alors c'est un, deux, quelques emplois, hein, par-ci, par-là. On n'a pas pu évidemment absorber tous les prisonniers. Et puis après, il y a ceux qui trouvent des petits boulots. Donc on a pas mal d'anciens prisonniers qui peuvent être chauffeurs de taxi. Il y a toute une compagnie, notamment à Belfast, de taxis qui sont un peu, si vous voulez, une espèce de service public parallèle, un peu comme des bus. Et on a pas mal d'anciens prisonniers qui vont, par exemple, s'investir, enfin être recrutés dans ce service-là.
C'est d'ailleurs devenu presque une attraction touristique. Il y a des compagnies de taxis noirs, comme ils disent, qui garantissent d'ailleurs des guides ou des conducteurs ayant passé jusqu'à 20 ans de prison. Ça fait partie de...
Tout à fait. Je prends même la... Je me sers de la perche que vous me tendez, parce que notamment vous avez aussi ces associations qui veulent proposer des tours touristiques pour assurer que vous avez un ancien prisonnier qui va vous raconter le conflit, etc. Et qui sont parfois, qui organisent parfois justement des tours loyalistes républicains, avec, vous faites voilà, 1h30 à pied dans Belfast avec un républicain qui vous explique sa vision du conflit. Il y a un moment un peu solennel, rituel, où vous passez justement de l'autre côté du mur et vous avez un ancien paramilitaire protestant, le loyaliste, qui vous attend et qui fait, pareil, 1h30 pour vous expliquer le conflit de son point de vue, etc.
Ça fait partie de la construction de la mémoire dont on parlera en focus tout à l'heure avec Fabrice Mourlon. Donc vous disiez, il y a ces associations aussi, ce sont des associations de vétérans. À l'origine, elles sont vraiment constituées pour les anciens combattants des deux parties ou surtout pour ceux de l'IRA?
Alors, j'irais même plus loin. En fait, c'est chaque groupe a sa propre association. La seule spécificité, si vous voulez, de l'IRA, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde. Donc en fait, vous avez des associations locales, vous avez celles de Belfast Nord, Belfast Sud, du Sud d'Armagh, etc. Bon, je ne vais pas toutes les lister. Et donc on a une espèce de supra-association, une organisation parapluie qui les chapeaute toutes. Après, bah voilà, l'INLA a sa propre association pour ses anciens prisonniers.
L'Irish National Liberation Army, dont vous nous aviez parlé, la branche armée du Parti Socialiste Irlandais.
Tout à fait. Et ensuite, vous avez quelques associations, on va dire, non-alignées indépendantes. Mmh. Alors, qui sont plutôt au moins de sympathies dissidentes, mais voilà, qui sont des gens qui veulent juste plus être affiliés à un parti, à une organisation précise.
Avec des associations aussi de taille un peu plus modeste et qui apportent quel genre de soutien? Agnès Maillot, on parle beaucoup aujourd'hui en Irlande du Nord du soutien psychologique dont ont besoin beaucoup d'anciens combattants, d'un soutien social aussi parce que beaucoup n'ont pas retrouvé d'emploi.
Absolument. Alors, ce sont en grande majorité des hommes, mais il y a aussi quelques femmes qui, pour certains d'entre eux, ont passé un certain nombre d'années en prison. Et malgré l'existence de ces associations, ils ont énormément de mal à retrouver une vie sociale, une vie amoureuse, une vie professionnelle, etc. Parce que même s'ils n'ont jamais été considérés dans leur propre communauté comme des parias, c'est-à-dire que ils sont, on est relativement reconnaissant du sacrifice qu'ils ont fait pour la cause, malgré tout, ça reste quand même des moments très très difficiles pour ces hommes. Et il y a des études qui montrent en fait que chez ces hommes en particulier, il y a des taux de dépression qui sont beaucoup plus élevés que dans la population, que parmi la population générale, qu'il y a des vraies difficultés à se reconstruire et qu'il n'y a pas en fait réellement de programme qui soit suffisamment robuste de la part des autorités pour les prendre en charge, pour les aider dans la réinsertion, en particulier professionnelle. Et ce qui est, il y a une étude qui parlait à ces prisonniers de cette difficulté à se réinsérer. Il y en avait certains qui disaient que l'ironie, c'était que quand ils étaient en prison, ils ont lutté pour être reconnus comme des prisonniers politiques et non pas des prisonniers de droit commun, et qu'ils avaient l'impression, quand ils sortaient de prison, d'être en quelque sorte criminalisés, c'est-à-dire que leur passé en prison était un obstacle à la reconstruction d'une vie à peu près normale. Alors, ceci dit, pour replacer tout ça dans le contexte, c'est il y a maintenant 25 ans. Donc, ces hommes et ces femmes ont maintenant vieilli. On ne parle plus du tout de la même situation maintenant qu'il y a 25 ans, bien évidemment. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils ont réussi à rejoindre les rangs du parti, qui est aussi un élément stabilisateur et qui leur permet de retrouver un rôle dans la lutte qu'ils ont menée avant par la violence et maintenant qu'ils mènent par des biais politiques.
Est-ce que tous les membres du Sinn Féin, par exemple, le parti qu'on rejoint beaucoup de ses combattants, est-ce que tous les membres du parti Sinn Féin aujourd'hui, qui fut la branche politique de l'IRA, sont encore des anciens de l'armée républicaine irlandaise, Adrian Holstein ?
Oh non, pas du tout. Non, puisque vous avez les générations suivantes en fait qui arrivent. Vous avez déjà à l'époque des membres du Sinn Féin qui ne sont pas passés par la branche armée. Ce n'était pas la majorité, cela ça va sans dire. Mais vous aviez déjà ce profil-là. Et en fait, depuis fin des années 90, essentiellement, on sent qu'il y a quand même aussi une volonté de justement de peut-être les futurs cadres au moins essayer qu'ils ne passent pas par cette étape-là et de les préparer pour d'autres usages, on va dire. C'est le cas de Michelle O'Neill qui est aujourd'hui première ministre en Irlande du Nord, chef du parti en Irlande du Nord et vice-présidente, qui vient d'une famille républicaine, qui a toute une partie de sa famille qui est passée justement par la prison, qui vient d'un bastion républicain, et il y a voilà tout un moment où elle fait partie de ce petit cercle qui est préparé à justement assumer d'autres fonctions, et on veut aussi tout simplement aussi changer un peu l'image du parti. Voilà, c'est justement, Michelle O'Neill est un exemple, on va mettre une femme. Ça va aussi offrir une autre image, une autre perception de ce groupe-là, essayer un peu de déconnecter l'IRA du Sinn Féin, en un sens.
Le chef historique Gerry Adams a quitté la présidence du parti en 2018 au profit de Mary Lou MacDonald. Donc le parti s'est rajeuni, il s'est aussi féminisé, mais tous sont beaucoup d'anciens de l'IRA, comme Mary Lou MacDonald elle-même.
1,000 suffrage imprisonment, 77 were executed officially.
Parmi les milliers de prisonniers politiques de l'IRA, 77 d'entre eux sont morts dans les prisons d'État. Mais beaucoup d'autres sont morts en dehors de ces murs. Mon grand-oncle, James O'Connor, a fait partie de ces militants tués. Il a été exécuté au camp Coorag avec 6 de ses camarades.
Patrick Bagnall, Joseph Johnson, Stephen White, Patrick Nolan, Brian Moore and Patrick Mangan.
Deux générations plus tard, je suis encore très émue lorsque je lis la lettre de mon arrière-grand-mère réclamant une indemnité pour la mort de James et le refus terrible qui lui a été opposé au motif que son fils était un criminel.
Mary Lou MacDonald, la chef du Sinn Féin depuis 2018, est-ce que le fait que le parti se soit rajeuni et plus largement le basculement générationnel nécessairement inéluctable de l'Irlande du Nord, Agnès Maillot, dont vous nous parliez tout à l'heure, est-ce que ça a une incidence sur la façon dont le Sinn Féin s'empare de cette mémoire ? Est-ce qu'il met davantage l'accent aujourd'hui sur les années de lutte de l'IRA ou sur la position qu'il a prise un jour d'appeler à abandonner les armes et de contribuer aux efforts de paix, parce qu'après tout, ceux qui ont réussi à ramener la paix civile peuvent aussi être considérés comme des héros.
Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ce qu'essaye le Sinn Féin, c'est de se construire comme un parti moderne du 21e siècle qui a des liens historiques avec l'IRA, qu'il ne renie pas, et non seulement qu'il ne renie pas, mais qu'il justifie dans un cadre bien spécifique, dans un contexte bien spécifique, mais en même temps, on sent une certaine exaspération des dirigeants du Sinn Féin, et en particulier en République d'Irlande, mais en Irlande du Nord aussi, d'être constamment rappelé à l'ordre pour ses liens avec l'IRA, ces liens anciens avec l'IRA, et cette espèce de parallèle qui est constamment fait entre la légitimité du parti à critiquer un autre parti et ses liens avec l'IRA historique. Donc, il y a une rupture, il n'y a aucun doute là-dessus, qui a été rendue possible effectivement par le fait que les anciens dirigeants de l'IRA, et en particulier Gerry Adams, qui a été une force politique très dominante dans le paysage nord-irlandais, mais aussi irlandais, le fait qu'il se soit retiré de l'ensemble de la politique, il n'a plus de fonction, il est simplement de temps en temps sollicité pour telle ou telle commémoration, mais ça a permis en fait un rajeunissement des leaders du Sinn Féin, mais pas uniquement du personnel, aussi des thématiques qu'ils vont aborder. Ils sont bien davantage impliqués dans des questions sociales que dans le maintien de la mémoire de l'IRA. Ça les intéresse parce que c'est leur histoire, parce que comme on voit avec Mary Lou McDonald, c'est son histoire personnelle aussi, mais ça ne les intéresse pas en tant qu'élément politique à l'heure des questions qui se posent concrètement en Irlande et en Irlande du Nord en 2025. Donc en fait, ce parallèle est de plus en plus difficile à établir, sauf dans des situations bien spécifiques, comme par exemple l'enterrement d'un ancien de l'IRA, où à ce moment-là, les leaders du Sinn Féin sont un petit peu obligés de participer aux obsèques, parce que sinon, ça serait vu comme une trahison de leur passé et de leur histoire. Donc c'est compliqué. Il y a histoire et il y a le moment présent.
Un parti qui s'est recentré sur des questions beaucoup plus sociales, le mot recentré n'est pas très bien adapté, en tout cas qui s'est concentré sur des questions plutôt sociales, se positionnait vraiment comme un parti de gauche sur la scène politique et aussi en particulier à destination de tous les républicains. Enfin, il reste des fractures sociales aujourd'hui en Irlande du Nord. Beaucoup d'anciens combattants n'ont pas accès au poste de la fonction publique. Une discrimination sociale que certains disent organisée par les accords du Vendredi Saint qui ont contribué à perpétuer les divisions. Alors, néanmoins, Adrien Holstein, est-ce que vous sentez, vous entendez dans les mots choisis une façon de parler du conflit nord-irlandais qui aurait changé à la faveur du renouvellement de génération, notamment au sein du Sinn Féin, le fait que de plus en plus de jeunes représentent ce parti-là? Qu'est-ce que ça a changé dans les mots?
Non, je suis pas sûr. Alors, oui, il y a eu certains trucs, mais je suis pas sûr qu'il y ait un changement si radical qu'on puisse le penser, parce que l'IRA, le passé, exerce quand même une certaine fascination, en fait, pour les jeunes républicains de manière générale. J'ai deux anecdotes, si vous voulez, un peu rigolotes là-dessus. Qui sont un peu liés, c'est-à-dire que je remonte un tout petit peu en arrière. À un moment de son histoire, vers les années 80, le Sinn Féin est invité à la fête de l'UMA, découvre la fête de l'UMA, trouve que c'est super
à Paris,
la fête de l'UMA.
En France, voilà. C'est pas Paris, en France, pardon, région parisienne. C'est moi qui me suis trompé.
Trouve que c'est génial et veut essayer de reproduire à peu près le même schéma. Et donc, vous avez deux choses là-dessus, c'est qu'ils vont reproduire. Je passe un peu le temps et on arrive dans les années actuelles. Et donc, un des trucs qu'ils ont compris de la fête de l'UMA, c'est il y a des concerts. Donc, on va inviter des musiciens, on va inviter des artistes et ils vont jouer. Et chaque année, inlassablement, ils invitent les Wolftones, qui est un groupe traditionnel, de chant traditionnel et républicain extrêmement populaire en Irlande. Et le public est un public de jeunes hommes et femmes d'une vingtaine d'années, voire un peu moins, qui hurlent à tue-tête le nom de l'IRA, qui chantent toutes les chansons en étant absolument emporté, si je peux dire, par cette ambiance-là. Donc il y a quand même ce côté. Et la fois où j'avais pu assister à ce concert, c'était un petit peu rigolo parce que justement il y avait des personnes plus anciennes qui avaient vécu le conflit, qui disaient un peu de manière sarcastique, voilà, on a des jeunes qui crient le nom de l'IRA, mais l'IRA a désarmé en 2005 et ils n'étaient pas là, enfin ils n'ont rien vécu, etc., etc. L'autre anecdote un peu rigolote aussi dans ce sens-là, toujours à la fête d'UMA, cette fois-ci c'est les Irlandais qui se rendent à la fête d'UMA, ils ont toujours leur petit stand, et en réalité, pendant des années, il y avait quand même quelques anciens qui étaient encore présents, et tant que c'était le cas, les références à l'IRA étaient un peu dissimulées, ou au moins pas trop assumé. Voilà, on avait un ancien de l'IRA qui pouvait répondre aux questions de quelqu'un un peu insistant, etc. Et depuis, si je dis pas de bêtises, je peux me tromper, je crois que c'est aux alentours de 2019 que ces anciens-là ont arrêté de s'y rendre. Et donc, c'est quasi exclusivement des jeunes de la branche jeune du Sinn Féin, notamment, qui se rendent à la fête de l'UMA. Et là, les références à l'IRA ont explosé. C'est-à-dire, on a toutes les unes de journaux du journal Anne Forblad, qui est le journal républicain pro-IRA de l'époque. Voilà, on a toutes les unes sur les moments importants, l'attentat contre Thatcher, la mort de Bobby Sands. Voilà, on a énormément de références à l'IRA qui ressurgissent.
Est-ce que vous savez, si je suis en train de chercher, si le groupe NICAP a déjà été invité à la fête de l'UMA, en deux mots?
Pas à ma connaissance.
Pas à votre connaissance. On va l'entendre. Un des membres du groupe NICAP, c'est un groupe de rap nord-irlandais qui est très investi aussi en politique, qui porte un discours auprès des jeunes, et c'est lui.
Les Brits sont totalement ignorants de notre histoire commune. C'est dans leur culture et c'est le cas depuis qu'ils ont commencé à conquérir le monde pays par pays. Dès ce moment, ils ont refusé de regarder leur histoire en face. C'est la différence avec l'Allemagne qui a commencé à se plonger dans son histoire après la Seconde Guerre mondiale et qui revient sans cesse sur le nazisme pour le dénoncer, qui le reconnaît pour le surpasser, alors que les Brits haïssent leur propre histoire parce qu'ils se sentent trop coupables.
We're on a mad one. Get Your Brits Out, extrait de cette chanson du groupe NICAP, qui veut dire rotule en français. Agnès Maillot, pourquoi rotule, cet os qui est dans la partie antérieure du genou, pourquoi ce nom, Agnès Maillot, et comment aujourd'hui évaluer le succès de ce groupe en Irlande du Nord?
Alors, le nom, très simplement, ça fait référence à une façon qu'avait Lyra de punir ceux qu'elle considérait comme des traîtres ou comme ayant profité du mouvement à des fins personnelles, etc. Et donc, il leur tirait une balle dans la rotule et ça s'appelait le kneecapping. Donc, le fait, procédure d'ailleurs extrêmement violente qui a été très, très, très controversée et qui n'a pris fin que dans les années 80. Donc, on a là une référence à quelque chose qui est d'une violence extrême. Et le fait que ce groupe, qui est constitué de trois personnes, deux jeunes et un peu moins jeunes, de l'ouest de Belfast, d'un quartier ultra républicain, qui chante en langue irlandaise. Hein, donc ça, c'est vraiment très important aussi. Ils basculent entre l'anglais et l'irlandais. Qu'ils aient choisi ce nom, ça peut être pris littéralement comme, interprété littéralement comme une espèce de célébration d'une des pratiques les plus contestables de l'IRA. Ça peut être aussi considéré comme quelque chose d'assez irrévérencieux par rapport à l'IRA et par rapport à leurs aînés. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a évidemment une résurgence de cette espèce d'enthousiasme que l'IRA a pu générer dans les années 70 en particulier et un petit peu dans les années 80, et qu'on a effectivement tendance à remettre l'accent sur des opérations un petit peu plus glorieuses, soi-disant réussi, comme l'attentat dont on parlait, Adrien, contre Thatcher, qui n'a pas été réussi puisque la cible était Margaret Thatcher elle-même.
Qui a tué un député britannique.
Qui a fait beaucoup parler. Voilà. Mais en même temps, on sent aussi que parce que l'IRA n'existe plus et qu'elle n'a plus ce contrôle et cette coercition sur sa communauté, que ça libère une parole. C'est-à-dire cette parole n'est pas uniquement et ne cherche pas uniquement à encenser l'IRA, c'est aussi à réhabiliter une certaine mémoire tout en s'en démarquant. Je pense que c'est extrêmement complexe, le fait qu'il y ait des jeunes qui chantent des chansons des Wolfstones, qui eux-mêmes sont effectivement un parti très qui ont soutenu la cause et qui ont des chansons qui sont extrêmement premier degré en fait par rapport à l'IRA. Le fait qu'ils se revendiquent de ce passé, c'est parce que c'est un passé. C'est parce qu'ils ne sont pas en train de faire un appel aux armes ou de glorifier la violence, etc. C'est une espèce de on investit un terrain mémoriel parce qu'il est possible de l'investir, parce qu'on sait de plus en plus de choses sur l'IRA aussi, sur ses exactions, sur ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Il y a quand même eu une chape de plomb jusqu'au cessez-le-feu, puis jusqu'au désarmement. Maintenant, on commence à entrevoir des faits ou des attentats qui ont été commis par l'IRA qui ne sont pas du tout à la gloire du mouvement. Donc, je pense qu'il y a un mouvement assez contradictoire actuellement parmi les jeunes, qui n'est pas uniquement une tentative de réhabiliter ou de glorifier l'IRA.
Alors l'IRA n'existe plus, certes, et l'IRA a désarmé, vous le dites, bien sûr, c'est quelque chose aujourd'hui qui se sait, qui a été contrôlé, mais il se trouve que parmi tous les hommes et toutes les femmes qui sont passés par les rangs de l'organisation au fil des ans, il y en a quand même encore qui sont restés actifs. C'est ce que disait un rapport britannique en 2015. Alors on n'a malheureusement plus le temps de remonter au groupe qu'on appelle dissident, que le gouvernement britannique ou la presse britannique qualifie de dissident, de remonter l'histoire en parlant du Sinn Féin républicain et de l'IRA de continuité, ce groupe armé qui s'est constitué à ce moment-là dans les années 80, qui avait pour cible de prédilection les forces de police, ou de la concurrente de l'IRA de continuité, l'IRA authentique formée un peu plus tard. Néanmoins, que peut-on dire, Adrien Holstein, de la nouvelle IRA qui a été créée en 2013 avec la fusion de trois groupuscules? Est-ce que c'est un héritage de l'IRA ou ce sont des personnes qui s'en revendiquent sans en être les héritiers?
Je dirais c'est un peu tout à la fois. Premièrement, parce que c'est un peu complexe cette histoire de la nouvelle IRA. Alors la nouvelle IRA est une appellation médiatique, policière, etc. Eux-mêmes se revendiquent comme l'IRA, tout simplement. En justifiant que nouvelle IRA, ça sous-entend nouvelle personne, et donc il y aura moins de soutien parce que voilà, c'est ce qui arrive après, etc. Et en même temps, c'est une scission, fusion, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est l'IRA authentique que vous avez mentionné, la Real IRA, qui se scinde en deux. Et c'est une partie la plus conséquente qui rejoint d'autres groupes et forme la nouvelle IRA, tandis que l'autre partie est moribonde aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe-là? Ça reste à l'heure actuelle le groupe le plus dangereux investi, même si c'est des actions sporadiques. Mais encore une fois, il y a des actes, j'allais dire, important, ou au moins dangereux, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, ils se sont attaqués à un officier de police, et qui n'était pas n'importe lequel, qui est un des officiers chargés justement des enquêtes contre les dissidents, et ils l'ont tendu une embuscade à la sortie de l'entraînement de foot, parce qu'il entraîne les enfants au foot. Et voilà, donc ils l'ont tendu une embuscade, ils lui ont tiré dessus, etc. Là, justement, il y a quelques jours, vous avez trois hommes qui passaient en procès pour possession du communiqué revendicatif de cet acte. Après, c'est pas le seul groupe, et vous avez même quelques enquêtes journalistiques ont montré que la nouvelle IRA était notamment avec un autre groupe qui s'appelle Arm Naflobata, qui est l'armée de la République, ça veut dire en gaélique, et qui était dans une espèce de concurrence au meurtre. C'est-à-dire, le premier qui arriverait à tuer un policier prouverait par là même qu'il est important, qu'il est sérieux, etc., etc. Donc, voilà, il y a une concurrence implicite entre ces deux groupes pour être le premier à assassiner un policier. Chose qui n'est pas arrivée depuis 2012.
C'était la dernière fois, 2012.
La dernière fois qu'un... Alors, je crois que c'était un gardien de prison à l'époque, voilà, qui a eu un meurtre.
Alors, il est difficile d'évaluer vraiment, en tout cas de dire très clairement et de façon très péremptoire que ces groupes sont totalement en porte-à-faux avec les aspirations des Nord-Irlandais dans leur ensemble, qui souhaitent la paix, ou même des aspirations des nationalistes Nord-Irlandais dans leur ensemble. En tout cas, il y a quelques Nord-Irlandais qui ne se reconnaissent pas, ne s'identifient toujours pas au processus de paix, y compris chez les unionistes qui pensent s'être fait avoir. Mais on sait aujourd'hui, enfin toutes les études parlent de ce désir de paix en Irlande du Nord, puisque 40% des Nord-Irlandais sur 2,5 millions d'habitants ont été directement concernés par la guerre qui a tué un de leurs proches, touché par la guerre, donc dans leur chair ou dans leur cœur. Des Cranberries, chanson de 1994. Les Cranberries et leur chanteuse controversée Dolores O'Riordan, qui a pris des positions qui ont déconcerté ses fans. Mais c'est une autre histoire et elle est morte il y a quelques mois. Ce titre Zombie ne fait pas référence aux morts vivants qu'on peut retrouver dans The Walking Dead par exemple, mais à ceux qui restent impassibles face aux violences. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur les guérillas qui déposent ou qui ont déposé les armes. Aujourd'hui, l'Irlande du Nord et ses anciens combattants de l'IRA qui se sont pour beaucoup reconvertis dans la politique au sein du Sinn Féin, délaissant le champ de bataille pour un autre, celui de la mémoire.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
People like myself who have very clearly been involved in the war and involved in the conflict for all those years.
Les personnes qui, comme moi, ont très clairement participé à la guerre et au conflit pendant toutes ces années, ont la responsabilité, une fois la guerre terminée, d'essayer de reconstruire la société et de veiller à ce que l'avenir de nos enfants ne soit pas notre passé.
Que l'avenir de nos enfants ne soit pas notre passé, c'est Anna Walsh, un ancien membre de l'IRA, fait partie de ces vétérans qui s'engagent pour faire vivre la mémoire du conflit nord-irlandais, comme le font aussi de leur côté les anciens combattants loyalistes, deux mémoires qui tentent de se rejoindre mais qui restent pour l'instant relativement concurrentes. Bonjour Fabrice Mourlon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'Irlande du Nord. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de démarches, musées, rencontres, récits qui tentent d'instaurer un dialogue entre les deux parties spécifiquement, que ce soit entre les anciens combattants de l'IRA et leurs victimes, ou entre d'anciens membres des forces de sécurité britanniques et leurs victimes?
Alors, c'est vrai qu'il y a une concurrence mémorielle, hein, comme vous l'avez dit, puisque déjà, les gens ne sont pas d'accord sur l'origine du conflit. Donc, l'origine du conflit fait débat. Donc, il n'y a pas une histoire commune.
Il n'y a pas de récit commun, déjà.
Il n'y a pas de récit commun encore. Hein. Ça, on le voit au niveau même des historiens, puisque un des historiens qui a travaillé sur ça, O'Leary, disait qu'il y avait un méta-conflit sur la nature du conflit. Donc, il y a du conflit partout. Il n'y a pas eu vraiment de travail, si vous voulez, de gestion du passé, comme en Afrique du Sud, où il y a eu ce moment unique de la Commission Vérité et Réconciliation. Donc ça, ça a été fait un peu de manière désordonnée en Irlande du Nord. Et du coup, ce sont les victimes qui ont commencé à témoigner un peu dans tous les sens. Et le premier programme qui a réuni en fait toutes les sortes de victimes ou combattants, puisque la ligne est très fine entre victimes ou combattants, les anciens combattants ont pu être victimes aussi. Donc voilà, c'est pas vraiment très divisé. Et donc les personnes ont commencé à raconter leur expérience à la BBC, dans une émission qui s'appelle Legacy, et tous les matins à 9h, quelqu'un racontait son expérience du conflit. Et du coup, il y a eu énormément de témoignages qui ont été soit publiés, soit archivés. Il y a une archive à l'université de Ulster. Donc vous avez une sorte de mémoire que l'on retrouve un peu... dont le paradigme est un peu, si vous voulez, les témoignages qui ont été recueillis après la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
Donc des témoignages que récupère aujourd'hui, comme vous le disiez, l'Université d'Ulster, cette plateforme, le Accounts of the Conflict, qui a été créée en 2014 par l'Université pour récupérer les témoignages, les collecter, les archiver, les recenser. D'autres projets comme The Forgiveness Project, donc des témoignages croisés entre victimes et criminels, qui a été fondé par Jo Berry, la fille du député britannique Anthony Berry, qui lui avait été tué lors d'un attentat à la bombe commis en 84 par Patrick Maggie. C'est lui qui avait posé la bombe qui visait Margaret Thatcher, dont on parlait tout à l'heure. Aussi des musées, le Fruidairy à Derryville, la ville encore très lourdement empreinte du Bloody Sunday, le musée à Belfast aussi, l'Irish Republican History Museum ou l'Ulster Museum à Belfast. Est-ce que là, à chaque fois qu'on réfléchit à la muséographie, discutent entre elles tous ceux qui portent cette mémoire-là?
Alors, ça, on retrouve, si vous voulez, il y a une tension entre la neutralité face au conflit, puisque personne n'est d'accord, donc on veut froisser personne, et certains musées qui sont bien identifiés, par exemple le Museum of Fruidairy ou celui donc que vous avez évoqué à Belfast, chez les Républicains, c'est quand même pour les Républicains. Donc ça m'étonnerait que les loyalistes aillent voir ce qui se passe. Vous voyez ? Donc ça, c'est très localisé. Après, il y a les musées Ulster Museum, c'est un musée national. Donc là, ils ont ouvert une galerie depuis les années 2000 sur le conflit lui-même. Donc il y a une tendance à montrer les deux côtés du conflit. Et on est encore là-dedans.
Ouais, on est encore là-dedans, qui est devenu d'ailleurs le projet de reconversion du site de Langkesh, cette prison qui a logé plusieurs milliers de prisonniers paramilitaires, tout groupe confondu. Il était question d'en faire un lieu de mémoire, mais là-dessus, les deux camps, les deux groupes ne se sont pas entendus.
Non. Parce que, justement, le problème de la gestion du passé, ce qu'on appelle « dealing with the past » en Irlande du Nord, n'a pas été réglé. Et la dernière fois, il y a une tentative, donc il y a une loi qui a été votée par le Parlement britannique en 2023, qui a fait énormément, qui a reçu énormément d'opposition en Irlande du Nord, mais même par le gouvernement de la République d'Irlande. Donc en fait, c'est une loi qui veut instaurer des institutions qui vont un peu essayer de retrouver un peu les circonstances dans lesquelles les gens sont morts, etc. Donc c'est tout le travail de vérité qu'on appelle. Mais il n'y a pas le travail de justice. Le travail de justice, il n'est pas encore pris en compte. Il est pris en compte de manière sporadique à travers des enquêtes, puis après peut-être des procès. Mais donc c'est ça qui manque. Et cette loi, c'est un peu le serpent de mer, si vous voulez. Dès les années 2000, il y a une organisation de la société civile qui s'appelle Healing Through Membering, qui a déjà essayé de réfléchir sur la façon dont on pouvait regarder son passé et justement essayer de trouver quelque chose de commun. Et ce que eux ils préconisaient et qu'on retrouve dans tous les actes officiels, c'est qu'à un moment donné, il va falloir de l'histoire orale. Donc il y a toujours une méfiance, on parlait beaucoup de méfiance, la méfiance aussi par rapport à un récit officiel du conflit.
Vous parliez d'une loi de 2023, il y a aussi cette loi du Parlement britannique qui devait mettre fin à toutes les enquêtes sur les meurtres non élucidés. Est-ce que c'est celle-ci ?
C'est celle-là.
Et c'est celle que le roi a fini par abroger, oui. Finalement, parce qu'elle convenait à personne, voilà. De quel côté que voilà. Ce soit. Il n'y a eu aucun procès ? Enfin, est-ce qu'il y a quand même encore des procès en cours ? Agnès Maillot nous parlait, je crois, tout à l'heure d'un procès en cours.
Oui, il y a des procès, mais aussi il y a des commissions d'enquête. Et les commissions d'enquête, par exemple celle qui a été faite sur Bloody Sunday, ce n'est pas à une cour criminelle. C'est justement toute la différence entre vérité et justice. Donc ça, c'est des commissions d'enquête qui vont décrire les circonstances. Et ensuite, il peut y avoir un procès. Et à Bloody Sunday, certaines des familles de Bloody Sunday ont fait un procès. Donc il y a un procès en ce moment contre le fameux soldat F. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est en deux temps. Hein? Donc, mais il y a encore, par exemple, des attentats, soit qui ont été commis par l'armée britannique, soit par les groupes paramilitaires, qui sont en train d'encore d'être jugés. Mais il n'y a pas eu, comme en Afrique du Sud, ce moment un peu unique, même s'il est imparfait, hein, puisqu'en Afrique du Sud, ça marche pas non plus. Mais il n'y a pas eu ce moment unique, si vous voulez, de travail de mémoire.
Il était question d'une commission présidée par des experts internationaux qui finalement, me semble-t-il, n'a pas été mise en place. Est-ce que Londres donne accès aux archives facilement ?
Tout ce qui est archives militaires, non.
Mmh. Adrien Hallstein, je vous vois réagir, peut-être juste un petit mot.
Il y a plein de choses qui sont encore classifiées pendant longtemps.
Ouais.
Ouais. Alors, ces initiatives de mémoire dont vous parliez tout à l'heure, elles sont surtout mises en place par la société civile, pour le dire très vite. Est-ce qu'elles bénéficient de financement à chaque fois ? Est-ce que des fonds spéciaux sont réservés à toutes ces initiatives qui entretiennent la mémoire ?
Alors, justement, à partir de 1994, la Commission européenne se rend compte qu'il faut investir dans la paix en Irlande du Nord et il déclenche un fonds d'aide pour la paix qu'on appelle brièvement Peace 1, 2, 3, 4. Donc il y en a eu 5, là il y en a eu, enfin c'est le cinquième en fait, c'est Peace 4 Plus. Et il y a eu énormément d'argent justement qui ont réussi à renforcer le secteur associatifs. Et il y a eu énormément d'associations qui ont œuvré pour la paix. Donc vous parliez d'un programme par exemple où on a fait rencontrer des victimes de l'IRA et puis quelqu'un de l'IRA. Mais il y a eu plein de choses comme ça qui ont été mises en place, mais au niveau local. Donc on n'entend pas parler beaucoup. Hein, mais qui sont extrêmement importants. Par exemple, sur l'interface, c'est-à-dire entre Belfast West, qui est catholique nationaliste, et la rue qui s'appelle Shankill, et qui est protestante et unioniste loyaliste, si vous voulez, il y a plein de groupes intercommunautaires qui essaient sur le terrain de faire en sorte que les gens se parlent. Et ça fait partie aussi d'une politique qui a été mise en place à partir des années 70 par le gouvernement britannique qui s'appelle les relations communautaires. Donc on part du principe que si les gens se rencontrent et se parlent, elles vont pouvoir comprendre l'autre et du coup peut-être pas rentrer dans l'antagonisme. Donc ça c'est tout le travail de terrain.
Merci beaucoup Fabrice Morlon. Vous restez avec nous. Adrien Holstein, de tous les États dont on parle cette semaine qui ont connu un processus de paix après une guerre civile. Je ne sais pas si on emploie ce mot aussi en Irlande du Nord, de guerre civile, même si tout n'est pas parfait, comme vient de nous le rappeler Fabrice Morlon, qui a encore beaucoup une bataille de mémoire. Est-ce que, comme l'Irlande est celui qui a la plus longue expérience en la matière et où la paix est donc durable, 27 ans, est-ce que ça en fait une prescriptrice en la matière? Est-ce qu'on consulte les Nord-Irlandais pour savoir comment ils ont fait, ce qu'on peut apprendre d'eux?
On les consulte, effectivement. C'est encore une fois ces associations d'anciens qui sont consultées. Donc, par exemple, Coistena Yimini, qui est la principale association d'anciens de l'IRA, a été consultée au moment des négociations, notamment des FARC, puisque je sais que vous en avez parlé. Donc voilà, quand il y a eu les négociations à La Havane, vous avez des Nord-Irlandais, des républicains nord-irlandais, qui étaient là pour raconter leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils pensent que ça a marché, pas marché, etc. Ils ont été consultés au moment du Népal aussi, des négociations au Népal. Donc, est-ce qu'il faut en faire une prescription? Je sais pas. Notamment parce que il y a quand même un élément qui revient assez souvent dans d'autres cas de figure, c'est l'international. Enfin, je sais qu'hier, vous avez beaucoup parlé comment on a ces programmes de DDR, qui, in fine, l'accord est quand même un peu un accord entre gouvernement britannique et gouvernement irlandais, qui a été un peu, de temps en temps, par les Britanniques autorisés à venir parler du sujet. Alors, sous Thatcher, c'est pas le cas, voilà, donc...
Pas de supervision internationale, non. Mais des fonds internationaux quand même. Là-dessus, Fabrice Morlon, l'Union européenne notamment donnait pas mal d'argent pour que soient mis en place des ponts en fait entre chacun.
Et il y a aussi un financement qui vient des États-Unis aussi. Donc il y a eu énormément de financement. Et alors maintenant, avec le Brexit, comme il n'y a plus justement ces fonds européens qui s'amenuisent, donc tout ce secteur associatif est en train de tomber. Mmh. Et ce qu'ont pas pu faire les politiques a été fait par les gens d'en bas. Mmh. Voilà.
Il nous reste peu de temps, mais Agnès Maillot, vous êtes toujours avec nous depuis Dublin. Juste un mot peut-être, ou Belfast, non, vous êtes à Dublin. Juste pour nous dire peut-être comment le Brexit justement a peut-être rendu plus sensible cette mémoire qu'elle ne l'était il y a encore 10 ans.
Je pense que le Brexit a un petit peu déstabilisé ce qui avait été acquis très très difficilement pendant des années, notamment sur la question constitutionnelle, c'est-à-dire quel serait l'avenir de l'Irlande du Nord, est-ce qu'il reste dans le Royaume-Uni, est-ce qu'il rejoint la République d'Irlande. Donc le Brexit, en déstabilisant cette question-là, déstabilise tout le reste, puisque ça génère des tensions dans un camp, puis par ricochet dans l'autre, etc. Donc il est évident que tout ce qui peut atteindre le statut de l'Irlande du Nord déstabilise l'ensemble du processus de paix. Ceci dit, on voit que pour l'instant, on a quand même des institutions qui sont relativement robustes, puisqu'elles tiennent le coup. Elles sont parfois, on est obligé de Londres intervient parce que les acteurs locaux n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais on a des institutions qui tiennent. Et puis aussi, comme vous l'avez souligné, on a 27 ans de paix.
Merci beaucoup Agnès Maillot qui était à Dublin, et j'en profite pour m'excuser, j'ai fait une grosse erreur au début de l'émission, j'ai parlé de Dublin en Irlande du Nord. Veuillez m'excuser, c'est la fatigue de fin de semaine et la fatigue tout court. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Agnès Maillot. Donc je rappelle le titre de votre livre, L'IRA et le conflit nord-irlandais, paru aux éditions des presses universitaires de Caen. Merci beaucoup Adrien Holstein, vous êtes toujours en cours d'écriture de thèse, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Et merci à vous Fabrice Morlon, professeur à la Sorbonne Nouvelle. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Ce qui a retenu votre attention ce matin, Catherine, c'est un bras de fer entre les États-Unis et Cuba dans la Caraïbe.
Avec les médecins cubains comme casus belli, comme pierre d'achoppement dans cette lutte d'influence entre La Havane et Washington, souligne The Jamaica Observer et Le Guardian. 24 000 professionnels de santé sont envoyés par Cuba pour travailler dans une cinquantaine de pays étrangers, une manière pour La Havane d'asseoir sa réputation internationale et de renflouer ses caisses, rappelle The Economist. Les brigades internationales de médecins cubains doivent en effet reverser une partie de leur salaire au gouvernement cubain. Cubains. Travail forcé inacceptable pour l'administration Trump et pour le chef de la diplomatie états-unienne, Marco Rubio, qui annonce des restrictions de visa à l'encontre de tous les responsables liés aux missions médicales cubaines à travers le monde. Marco Rubio, lui-même d'origine cubaine, est un farouche opposant au gouvernement communiste de la Havane, note le journal The Jamaica Observer. Ce quotidien jamaïcain et le Jamaica Gleaner décrivent et savourent presque la rebuffade, l'affront qu'a subi hier Marco Rubio à Kingston, la capitale de la Jamaïque, où le diplomate participe à une réunion avec les pays de la communauté caribéenne. Soyons clairs, les 400 médecins cubains en Jamaïque nous ont été incroyablement utiles et il n'existe pas de travail forcé ni de trafic humain, a martelé le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness lors d'une conférence de presse conjointe avec Marco Rubio, rapporte The Jamaica Observer. Le chef de la diplomatie états-unienne a alors promis de travailler à une meilleure compréhension de la Jamaïque.
En tout, ce sont 1500 médecins cubains qui sont déployés dans la région.
Sans eux, explique The Economist, le Guardian et la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, les Caraïbes n'auraient pas pu traverser la pandémie de Covid, tout comme certaines régions d'Italie d'ailleurs, la Calabre notamment, ajoute le journal italien Il Post. Rôle vital encore aujourd'hui, explique le premier ministre de Sainte-Lucie, Philippe J. Pierre, sur la chaîne locale NBC Television.
The Cuban doctors who work in Saint Lucia, they get paid, they have no special or different treatment.
Les médecins cubains travaillent en tant que professionnels à Sainte-Lucie. Ils sont payés normalement par notre gouvernement et ne bénéficient d'aucun traitement spécial différent de celui de nos médecins locaux. Notre système médical s'effondrerait si ces professionnels cubains n'étaient pas là. Pas de travail forcé ni de trafic d'êtres humains, conclut le Premier ministre de Sainte-Lucie. C'est ce qu'assure aussi The St. Kitts and Nevis Observer dans les Petites Antilles. Et pour illustrer à quel point certains pays caribéens sont effrayés ou remontés face aux pressions de l'oncle Sam, le premier ministre d'Antigua et Barbuda, Gaston Brown, a tenu à rappeler sur la radio .fm 99.1 que les pays des Caraïbes sont souverains, même face aux États-Unis. Leurs ennemis ne sont pas nos ennemis, insiste le premier ministre d'Antigua et Barbuda, cité par Caribbean Today et le New York Amsterdam News.
Malgré tout, certains pays des Caraïbes sont plus vulnérables que d'autres aux pressions du gouvernement de Donald Trump.
Au Guyana, où 240 médecins et infirmiers cubains tentent de pallier les pénuries de personnel, note le quotidien guyanien Cayeter News, ce petit État a besoin aussi du soutien sécuritaire des États-Unis pour protéger son pétrole et son gaz au large de l'Essequibo face aux velléités expansionnistes du Venezuela, relève The Economist. Alors, mieux vaut dialoguer autour de ces brigades de médecins cubains plutôt que de s'affronter, encourage le Saint Vincent Times, dans l'État de Saint-Vincent et les Grenadines, où le Premier ministre dit préférer perdre son visa pour les États-Unis plutôt que de voir mourir 60 travailleurs pauvres, rapporte The Economist. Comment reprocher aux Caraïbes de recourir aux médecins cubains quand les États-Unis réduisent, eux, leur aide internationale sanitaire, souligne le New York Times et le Jamaica Observer. Alors après le retrait de Washington de l'OMS, la fin de l'aide internationale au développement via l'USAID, l'administration Trump vient d'arrêter de financer les initiatives vaccinales menées dans les pays en développement. Le ministre de la Santé de la Sierra Leone craint le pire pour son pays, confronté à une épidémie de Mpox, mais aussi pour le monde entier, dit-il au New York Times. Car la vaccination n'est pas une simple dépense, mais un investissement.
Pour conclure, Catherine, la Pologne suspend le droit des migrants à demander l'asile.
Pour les exilés qui arrivent en Pologne via sa frontière avec la Biélorussie, précise le quotidien polonais Rzeczpospolita et la BBC, un texte critiqué par des ONG comme Human Rights Watch qui estiment que l'Union européenne devrait intenter une action en justice contre la Pologne, explique la BBC, car cette loi va à l'encontre des obligations internationales et européennes en matière de droit d'asile. Il s'agit, explique encore le gouvernement polonais, de bloquer en fait les personnes qui traversent illégalement la frontière dans le cadre de l'instrumentalisation de la question migratoire par le président biélorusse Alexandre Loukachenko pour déstabiliser l'Europe, ajoute la première chaîne d'information polonaise TVN24. Une centaine de personnes sont mortes, souligne la BBC, aux frontières entre la Biélorussie, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie depuis 2021.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, comme chaque vendredi, vous retrouverez Mélanie Chalandon pour une table ronde d'actualité consacrée à la Turquie. Quel partenaire peut-il être pour la défense européenne? européenne. Ce sera avec Didier Billon et Aurélien Denisot. Il sera également question, bien sûr, de l'arrestation du maire d'Istanbul ce week-end. Table ronde précédée d'un retour d'Arabie Saoudite avec la journaliste Rachel Notto qui en revient pour le journal Le Pèlerin. Elle y parle de la modernisation du pays.